Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons de leadership féminin dans le monde du business en Afrique, présence féminine dans l'environnement des affaires, mais aussi leur apport réel pour faire avancer les économies du continent. Nous en parlons dans le Zoom Express. Ce sera dans quelques instants. Et notre invité nous parlera, lui, de la coopération entre les notaires du Maroc et leurs confrères du continent. Le notariat marocain a récemment célébré ses 100 ans d'existence. Vous entendrez à nouveau Maître Taoufik Azouzi, membre du Bureau national de l'Ordre des notaires du Maroc. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais à l'instant, cette semaine nous parlons de leadership féminin dans le monde du business en Afrique. Quelle est la présence féminine dans l'environnement des affaires, mais aussi l'apport des femmes et des filles pour faire avancer les économies du continent? Nous en parlons donc dans ce Zoom Express. Et nous avons le plaisir de recevoir Tara Ninkema, qui est la présidente de l'ONG Women Leader, basée en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, Tara Ninkema, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, et tout le plaisir est pour moi. Merci.
Le plaisir est aussi pour nous de recevoir Mustapha El Bouri à nouveau, qui est le directeur général de la plateforme Best Afrique et qui nous accompagne dans cette rubrique. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Bonjour.
Avec vous deux, nous allons parler de la participation de la gente féminine dans le monde du business en Afrique. Alors, tout d'abord, je commence par Tara Ninkema, présidente de l'ONG Women Leader. Tout d'abord, présentez-nous votre ONG avant d'avancer dans le fond du sujet.
D'accord. Alors, merci déjà de me recevoir aujourd'hui. Je suis Tara Ninkema Kone, présidente de l'organisation Women Leader. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que Women Leader est une organisation qui œuvre pour la promotion du genre, donc à travers deux grands domaines, dont l'éducation de qualité pour le maintien et la scolarisation des jeunes filles à l'école, et également l'autonomisation économique des femmes et des filles.
Donc, l'autonomisation des femmes et des filles. Alors, parlez-nous justement de cet aspect autonomisation des femmes et des filles, parce que leur participation dans l'économie ne peut pas en outre par cette autonomisation. Qu'entendez-vous ou qu'entend-on souvent par autonomisation économique des femmes en Afrique?
D'accord. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Women Leader existe maintenant depuis 6 ans. Et au travers de ces 6 ans, nous avons mis en place plusieurs projets et nous avons tout récemment là fait l'ouverture de notre plan stratégique 25-30, donc sur 5 ans, et nous avons fait un constat. Donc nous travaillons beaucoup dans le milieu rural également, et lorsque nous avons mené notre diagnostic social, nous nous sommes rendus compte que tous les projets que nous menons en faveur de l'accès à l'éducation ne sont pas complets s'il n'y a pas aussi un volet autonomisation. Et donc, le volet autonomisation aujourd'hui permet justement de venir capaciter ces femmes-là à pouvoir en fait mener une activité génératrice de revenus pour qu'elles puissent vraiment participer au ménage.
Parce que c'est intéressant. Alors, Mustapha El Bouri, je me tourne à vous à présent. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte les membres de la diaspora africaine entre eux, mais surtout aussi avec les diasporas étrangères basées en Afrique. Alors, il est vrai qu'on parle tout le temps de l'implication des femmes dans l'économie, dans l'environnement des affaires. Alors, selon vous, aujourd'hui, en ce qui concerne, par exemple, les jeunes filles, quels sont les obstacles qui empêchent à cette catégorie de jouer de façon durable leur contribution dans l'économie?
Oui, Omar, c'est vrai que c'est vraiment un sujet d'actualité, les questions des jeunes filles sur notre continent. Je commencerai par dire que l'éducation vraiment de nos jeunes filles, elle est freinée. Elle est freinée par plusieurs obstacles. Des obstacles qui sont autant qui sont structurels, comme l'a mentionné Tara, mais qui sont également culturels et économiques. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la pauvreté, ça reste quand même un facteur déterminant dans l'éducation. Et sur notre continent, lorsqu'une famille doit choisir, c'est souvent, il faut le reconnaître aussi, c'est souvent le garçon qui est priorisé pour aller à l'école. Ensuite, bon, il y a d'autres petits problèmes qui apparaissent. Il y a des mariages précoces, il y a des grossesses adolescentes, il y a des normes culturelles qui font que la place de la fille, elle est plus au foyer qu'à l'école. Donc maintenant, il faut surmonter, Omar, tous ces obstacles. Il faut surtout les surmonter, comme a dit Tara, de manière durable. Mmh. Et pour moi, il faut agir. Il faut vraiment agir sur plusieurs fronts. Hein. Il faut sensibiliser, je pense, les communautés à ça. Il faut, comme vous l'avez cité, autonomiser les familles économiquement. Et il faut surtout, d'après moi, instaurer des politiques publiques qui sont fermes contre les mariages précoces. Et surtout investir massivement, vraiment très, très massivement, dans l'éducation qui soit à la fois, je dirais... qu'elle soit inclusive et aussi qu'elle soit accessible à tous. Hein. Mmh. Et je terminerai sur ce point en disant que les filles, elles doivent être des jeunes filles, elles doivent être protégées, elles doivent être soutenues, mais surtout, au jour d'aujourd'hui, chose qu'on ne fait pas assez, elles doivent être valorisées. C'est vraiment des actrices qui sont, comme vous l'avez cité, Omar, hein, c'est vraiment des actrices qui sont clés dans le développement de nos sociétés. Leur éducation, d'après moi, c'est vraiment une urgence. Mais à la fois, c'est surtout une opportunité pour l'avenir de l'Afrique.
Mmh. En tout cas, on en reparle, hein, on en reparle longuement au cours de cette émission. Alors, Tara Ninkema, cela dit, aujourd'hui, quels sont selon vous des projets spécifiques qu'il faut mettre en place pour davantage booster ce leadership féminin dans le monde des affaires ou ne serait-ce que par rapport à la formation des jeunes filles?
D'accord, merci Omar. Alors, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place deux grands projets. Donc, nous travaillons sur le projet Girl Solidarity et le projet Espoir Rural. Donc, ce sont des exemples de projets et des initiatives réussies qui peuvent aussi être mises à l'échelle. Donc, pour l'explication, en fait, Girl Solidarity vise au maintien des jeunes filles à l'école et à leur apporter justement un appui à la scolarisation en milieu rural et urbain. Et donc ce projet-là aujourd'hui, il vient capaciter ces jeunes filles-là sur plusieurs thématiques telles que le leadership, le digital. Et ce qui est bien avec ce projet, c'est que nous leur offrons toute une gamme de formations et des bourses. Parce que nous avons aussi, par le biais de l'un de nos partenaires, le groupe CERCO, Université privée en Côte d'Ivoire, spécialisés dans les questions d'intelligence artificielle, qui offrent 150 bourses justement à ces jeunes filles chaque année. Et donc, au niveau du volet autonomisation, le projet Espoir Rural, aujourd'hui, vient réunir les femmes et les filles en coopérative solidaire pour la transformation et la culture du piment. Donc, vous savez, le piment, c'est très consommé en Afrique, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire, par les Ivoiriens. Et donc, c'est vraiment une culture qui sort beaucoup. Et donc, nous nous sommes penchés justement sur ce domaine.
Mmh. En tout cas, c'est intéressant et ce qui appelle certainement à des partages d'expériences avec d'autres pays et d'autres ONG et associations qui œuvrent dans ce sens-là. Justement, Moustapha El Bouri, si on prend le cas du Maroc, quel type de partenariats sont possibles avec des pays du continent dans ce sens-là?
Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des partenariats possibles. Je pense que l'association Women Leaders que préside Tara pourrait vraiment établir des partenariats qui sont vraiment très stratégiques avec des grosses ONG. Il y a des grosses ONG marocaines qui sont spécialisées dans justement l'autonomisation des femmes, qui sont spécialisées dans l'éducation et qui sont également spécialisées dans la formation professionnelle des jeunes filles et des jeunes mamans. Bon, je ne veux pas les citer parce que bon, je pense qu'on ne peut pas citer les associations, mais il y en a plusieurs très grandes. C'est vraiment ces structures-là, elles ont vraiment une très grande expertise locale, elles ont vraiment un très très grand réseau et une expérience concrète dans le soutien, je dirais, des filles qui sont en situation de vulnérabilité. Maintenant, le partenariat, il peut être sous différentes formes. Il peut être, ça peut être, comme on dit, des échanges de bonnes pratiques. Voilà. Je pense qu'il peut aussi, et là peut-être qu'on a aussi, on travaillera dessus avec Tara, faire des co-organiser des programmes de formation, que ça soit comme voilà, on l'a cité, dans le numérique, dans l'artisanat, dans l'entrepreneuriat, ou encore, je pense qu'il faut faire des campagnes conjointes de sensibilisation dans les zones rurales. Tara est venue il y a pas longtemps à Ben Gadir, qui est dans la province de Marrakech, donc il y a eu un premier pas déjà. Donc je dirais qu'en mutualisant toutes ces ressources, qu'elles soient à la fois humaines mais aussi matérielles, je pense qu'on peut très sincèrement créer, un écosystème qui soit solidaire, qui soit plus fort et qui soit surtout capable d'offrir à ces jeunes filles non seulement un accès à l'école, mais aussi des parcours de formation. Et surtout, encore une fois, l'objectif, c'est de les mener à une réelle autonomie. Donc je terminerai, Omar, en disant qu'il faut vraiment... Bon, on cite souvent cette collaboration sur-sud, ou on la cite pas souvent dans les associations. Donc, une collaboration sud-sud entre toutes les associations africaines, aujourd'hui, je pense qu'elle est non seulement souhaitable, mais c'est vraiment un élément essentiel et qui permettra très sincèrement de bâtir, un modèle qui soit d'émancipation, qui soit vraiment enraciné dans les réalités locales, tout en étant également ouvert à l'international et au monde également.
Merci à vous, Moustapha El Bouri, directeur général donc de la plateforme Best Afrique, mais merci aussi à Tara Ninkema, présidente de l'ONG Women Leadership. On parlait donc avec vous deux de la participation féminine dans le leadership féminin, ou plutôt dans le monde du business en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Omar, à très bientôt.
Merci.
Coémergence. L'invité.
Le notariat marocain célèbre ses 100 ans d'existence, un siècle de prestations au service du droit et de l'application du droit. Occasion de parler de la coopération entre les notaires marocains et leurs confrères du continent. Et avec nous, Maître Taoufik Azouzi, membre du bureau du Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc, pour en parler. Bonjour à vous, Maître Taoufik Azouzi.
Bonjour Monsieur Baldé, c'est un plaisir d'être avec vous.
100 ans de notariat au Maroc, beaucoup de choses à retenir, on imagine.
Oui, bien sûr, beaucoup de choses, beaucoup de travail qui a été fait depuis la promulgation de la première loi sur le notariat depuis 1925, plus précisément 4 mai 1925, qui a été promulguée, comme j'ai dit, dans le cadre de la modernisation de l'arsenal juridique au Maroc depuis le protectorat. C'était l'occasion de moderniser tout l'arsenal juridique, y compris les codes que nous connaissons tous, le DAER sur les obligations et contrats, le DAER sur les matriculations foncières, le code foncier, mais aussi d'autres professions ont vu le jour à travers ce mouvement législatif, notamment la loi sur la création des barreaux. C'était en 1924, c'est-à-dire une année avant la promulgation de la loi sur l'Ontario. 100 ans de travail, il y a eu un peu de travail qui a été fait par les anciens notaires pour dire qu'ils existent, surtout les Marocains, parce qu'il y avait une condition. Pour être notaire, il faut être français. Mais les Marocains ont pris les choses en main, surtout après le DAER sur l'arabisation et la marocanisation des lois.
Oui, certainement, c'est beaucoup de choses. C'est un siècle. Nous en profitons, comme je le disais, pour parler de la coopération avec les notaires du continent, vos confrères du continent. Alors, comment se porte cette coopération sur le plan continental?
Sur le plan continental, se porte très très bien. Et d'ailleurs, nous sommes bien accueillis par nos confrères du Sénégal, qui abritent les travaux de l'Union internationale. D'ailleurs, beaucoup de partenariats ont été signés, notamment avec les notariats du pays du Sahel, tout récemment, en 2023. Et puis, il y a un travail qui a été fait avec notamment le notariat du Sénégal, avec lequel on a transmis un environnement digital sur lequel travaillent les notaires, sur le système de sortir. Le savoir-faire est transmis à nos confrères du Sénégal. Bon, il y a aussi le sortir du Sénégal Et avant, il y a le sortir du Maroc. Donc, c'est ça, cette coopération sud-sud.
Alors, cela dit, en termes d'évolution de la pratique, hein, là vous parlez sur le plan numérique, en termes d'évolution de la pratique, quels sont les partages d'expérience qu'il y a entre vous et les confrères du continent?
Alors, on partage beaucoup de choses, surtout, par exemple, dans une réunion comme celle de l'Union internationale. D'abord, en matière de formation, il y a des conventions bilatérales pour organiser des formations entre les deux rives, entre le Maroc et les autres pays. Il y a aussi partage d'expériences en matière de moralisation du climat des affaires, notamment les actions anti-blanchiment, comment le notariat marocain a évolué dans ce sens et fait partager son savoir-faire avec les autres continents. On profite aussi du savoir-faire du notariat du continent. Ils ont beaucoup de choses qui ont été développées, donc on profite de leurs expériences dans le cadre d'un partenariat win-win et un partenariat égal. C'est-à-dire, on n'est pas là pour donner de leçons à quiconque, on est pour apprendre et aussi donner.
Donc, on imagine que pendant 100 ans, beaucoup de choses ont évolué ici et ailleurs. Aujourd'hui, par rapport aux défis du moment, comment voyez-vous l'avenir du notariat en Afrique?
Alors, le notariat en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités à explorer, notamment en matière de la digitalisation. Le Maroc était un peu précurseur par rapport à plusieurs pays, même au niveau mondial, en matière de digitalisation du droit. L'Afrique doit prendre ce train. Et il y a des défis, bien sûr, en ce qui concerne l'Internet, en ce qui concerne l'électricité, mais les choses évoluent de plus en plus. Il y a aussi les défis concernant, comme j'ai dit, la lutte contre le blanchiment et la lutte contre les crimes organisés, les cybercriminalités, la sécurisation des données. Ce sont des défis sur lesquels on doit travailler tous pour être bien préparé à tout ce qui va se faire pour l'avenir. Des opportunités d'investissement aussi. Il y a beaucoup d'investissements qui se font en Afrique. Et donc, du coup, le notaire doit accompagner ces investisseurs en permettant aux parties et à l'État, aux États, bien sûr, de leur garantir une sécurité juridique dans les transactions qu'ils font.
C'est donc bien noté. Et nous avions le plaisir de recevoir Maître Taoufik Azouzi, membre du bureau du Conseil national de l'Ordre des notaires du Maroc, qui nous parlait depuis Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et à bientôt, j'espère.
À bientôt.
Destination Écho.
Et c'est désormais une rubrique que nous animons avec nos confrères de l'agence Ecofine. L'agence Ecofine est spécialisée dans les formations financières et économiques en Afrique. Chaque semaine, nous aurons le plaisir de retrouver l'analyse de son rédacteur en chef, Idriss Lingé. Et aujourd'hui, Idriss Lingé nous amène au Nigeria pour faire le point sur l'état de l'économie nigériane, première puissance démographique africaine. Idriss Lingé, comment se porte l'économie du Nigeria?
Alors, l'économie du Nigeria traverse des défis sérieux, notamment avec une inflation, c'est-à-dire un rythme de progression des prix qui est assez élevé. C'est une inflation à deux chiffres. Et forcément, le fait que les prix augmentent de manière intense, ça accroît la pauvreté. Le nombre de personnes de la classe moyenne qui se retrouvent dans l'incapacité de consommer est élevé. Et puis, naturellement, cela entraîne des problèmes de sécurité. Cependant, le pays s'efforce de surmonter ces obstacles, autant pour moi, grâce à des réformes structurelles et des initiatives du gouvernement qui visent à continuer de diversifier l'économie, améliorer l'infrastructure de production. Donc, malgré les difficultés, le Nigeria reste une opportunité d'investissement et c'est une chose qu'il faudra surveiller de très près.
Alors, Idriss Lingé, vous nous avez fait la météo donc de l'économie nigériane. Alors, quelles sont les opportunités d'investissement dans la deuxième puissance économique du continent, surtout pour des investisseurs en provenance de pays comme le Maroc?
Alors, les opportunités d'investissement au Nigeria sont assez nombreuses. Rappelons que ça reste quand même le plus grand marché d'Afrique, avec ses 210 millions d'habitants, et qu'il compte quand même une classe de consommateurs, notamment avec des personnes qui ont des pouvoirs d'achat évalués en millions de dollars, qui est assez conséquent. Maintenant, pour un pays comme le Maroc, il faut dire que le Maroc a développé de l'expertise dans beaucoup de segments. Il pourrait, par exemple, tirer profit des opportunités dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication. C'est un secteur en pleine croissance qui offre encore des opportunités. Il y a des entreprises locales, mais ces entreprises peuvent avoir besoin des partenariats extérieurs. Nous avons l'agriculture et l'agro-industrie. Les 200 millions de Nigérians ne mangent pas suffisamment. Bien sûr qu'on a lancé une usine d'engrais là-bas, notamment avec Dangote, mais l'office chérifien des phosphates a un marché important qu'il peut conquérir avec des produits compétitifs. L'énergie renouvelable, c'est une opportunité au Nigeria. On compense le manque d'électricité et d'hydroélectrique par des groupes électrogènes. Ça pollue les villes du Nigeria et les énergies renouvelables où le Maroc a montré un certain leadership. Peuvent constituer une opportunité à explorer. Donc, le Nigeria offre de nombreuses perspectives dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de la construction. C'est un pays qui a encore des marges de croissance importantes. Et justement, le fait que la monnaie se soit légèrement, enfin, sérieusement effondrée, fait en sorte que les coûts d'investissement sont plus faibles, avec la possibilité d'avoir des taux de rendement élevés.
Merci à vous, Idriss Linger, rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée dans l'information financière et économique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.